Go, la review d'Ipress JB.
Ce podcast est disponible H24 sur iTunes, PodCloud,
Deezer et YouTube.
C'est pas sexy Sarah ça?
C'est pas sexy choucroute Sarah ça?
Chaque matin, peu avant 7h, c'est encore mieux qu'un café.
J'ai la forme et je frétille comme une petite truite toute la journée.
Le week-end s'en est allé avec son cortège de bonheur, de rendez-vous entre amis, de repas en famille et de cocooning sous la couette, sous le plaid, devant la télévision. Oui, le week-end s'en est allé. Cette nouvelle semaine qui commence n'est peut-être pas évidente pour vous, mais la revue de presse JV est là pour vous caresser les oreilles, pour vous donner panache et robustesse. Moi, c'est Bruno Roca, vous le savez, vous êtes dans le premier podcast quotidien vous causant jeux vidéo chaque matin ou chaque après-midi, chaque soir, selon le moment où vous téléchargez ou écoutez l'émission. Et donc pendant 15-20 minutes, on va causer JV. Je vous ai sélectionné ce matin encore une belle brochette de news, ce qu'il ne fallait pas manquer. Oh, que j'ai fouiné à droite à gauche pour vous, chères auditrices, chers auditeurs. J'en ai scrollé des pages web, j'ai cliqué à tour de bras, je n'ai pas regardé à la dépense, je n'ai pas ménagé mes efforts. J'aimerais, avant qu'on commence, remercier encore les tipeurs qui m'ont gentiment offert leur brin de voix que j'ai incorporé dans la petite introduction que vous entendez au début de l'émission. J'aimerais aussi remercier les responsables de Radio Bourrin, la web radio rock et métal d'Alsace qui m'accueille à partir d'aujourd'hui tous les matins à 8h. Donc encore un grand merci à eux et un grand coucou à tous leurs auditeurs. Un canal de diffusion supplémentaire, et ben c'est vraiment super cool. Donc merci à eux et j'espère donc que les auditeurs de cette web radio apprécieront le programme. Et je pense qu'il est grand temps d'attaquer cette nouvelle édition dans la joie et la bonne humeur. Allez, c'est parti! Quantic Dream épinglé, ce que dit le droit. Alors c'est un article premium sur Gamekult, signé par Yukishiro. Alors comme c'est un article premium, bien évidemment par respect pour son auteur, pour la rédaction de Gamekult, je ne vais évidemment pas vous retranscrire l'intégralité de cet article, mais quelques passages qui m'ont paru vraiment très intéressants, puisque Gamekult a demandé à un avocat spécialisé dans les startups et les sociétés technologiques, un avocat qui se nomme Arnaud Twati, d'apporter quelques précisions concernant donc ces conditions difficiles, ce climat pesant, ces irrégularités de contrat, précise Gamekult. Des faits rapportés, je le rappelle, par Canard PC, Mediapart et Le Monde.fr. L'avocat Arnaud Twati nous dit notamment que, en tout état de cause, je cite, « de nombreux soupçons de violation de la législation du droit du travail pèsent sur l'entreprise française Quantic Dream. » Concernant le crunch, vous savez, ces heures de travail interminables imposées ou pas par l'entreprise, Maître Twati nous rappelle que la limite légale d'heures de travail par jour est fixée à 12 heures. Et donc, ceux qui affirment chez Quantic Dream avoir travaillé jusqu'à 15 heures par jour mettent en défaut l'entreprise, puisque c'est en totale contravention avec les prescriptions légales. Plus grave encore, nous dit l'avocat, une pratique serait fortement plébiscitée dans les locaux de l'éditeur français. Les moqueries par photomontage, ça on en a bien parlé aussi dans l'émission très souvent. La qualification, nous dit Maître Twati, de harcèlement moral pourrait être retenue si la justice parvenait à établir que certains montages ont ciblé certaines personnes en particulier de façon répétée et de nature à dégrader les conditions de travail des dites personnes. Un peu plus loin, Yukishiro demande que nous dit cette histoire sur la vie dans les studios de jeux vidéo et la relation entre salariés et employeurs. Arnaud Twati répond, doit-on vraiment interdire formellement à une personne qui a envie de propulser sa carrière à un moment donné, de travailler plus de 12 heures par jour, alors même que les périodes des crunchs peuvent être regardées comme une aubaine dans la carrière d'un développeur qui engrange de l'expérience et surpasse ses limites, avec à la clé une augmentation salariale par la rémunération des heures supplémentaires. D'ailleurs, certains employés ont volontairement, semble-t-il, manifester leur désaccord avec les accusations ainsi formulées. Tout l'enjeu, nous dit-il, de ces situations est de parvenir à trouver le juste équilibre entre ce qu'impose le droit et ce que permettent la morale et l'éthique. Où placer ce curseur lorsqu'il s'agit de photomontage? Quelle est la différence entre un photomontage qui fera rire son sujet et celui qui lui portera atteinte? Il s'agit là d'une question éminemment délicate dont la réponse dépend de la sensibilité de chacun. En revanche, dit l'avocat, il est légitime qu'un salarié, cible de montage quasi quotidien et injurieux, soit en mesure de porter cette pratique devant les tribunaux et d'obtenir réparation de son préjudice. Et concernant ce que risque Quantic Dream, l'avocat nous explique que sur le plan juridique, Quantic Dream risque effectivement gros. Les faits de harcèlement moral sont réprimés tant par le code pénal que par le code du travail, jusqu'à 2 ans d'emprisonnement et 30 000 euros d'amende. Il convient aussi de souligner que les harceleurs ne sont pas les seuls concernés car l'employeur a le devoir de prévenir ces faits et doit veiller de manière générale à la santé et la sécurité de ses employés. Concernant tous les autres manquements au droit du travail, ils seront également sanctionnables. Certains employés se sont plaints que les heures supplémentaires de crunch ne soient pas correctement rémunérées. Il s'agit là, nous dit-il, d'un cas de travail dissimulé qui expose la société à des sanctions pénales à hauteur de 3 ans d'emprisonnement et de 45 000 euros d'amende. En dehors de toute considération juridique, nous précisons, Quantic Dream risque également que son image soit écornée à quelques mois seulement de la sortie de leur prochain titre majeur et plus profondément remise en cause dans le secteur du jeu vidéo. Les pratiques décriées par les anciens salariés sont en réalité des usages généralisés dans le monde du jeu vidéo. Le crunch est une pratique tout à fait classique et les photomontages sont monnaie courante dans cet univers, comme dans beaucoup d'autres d'ailleurs. Dès lors, se pose la question, se demande l'avocat, de savoir si ce « Quantic Gate », entre guillemets, pourrait avoir des répercussions de manière plus globale sur l'industrie du jeu vidéo. Ce ne sont que quelques parties là que je viens de vous extraire de cette interview qui est bien sûr beaucoup plus longue. Donc je vous invite, si vous n'êtes pas membre premium, peut-être de le devenir pour lire cet article, ou si vous connaissez une connaissance ou faites un petit tweet, car vous savez que vous pouvez demander des codes qui vous donnent accès pendant 24 heures à certains articles premium en particulier. Donc vous pouvez passer par ce biais là aussi. Voilà ce qu'on pouvait dire aujourd'hui sur cette affaire Quantic Dream. Comme vous le savez, je vous en parle quand il y a vraiment du concret. On va voir maintenant ce qu'il va se passer dans les jours à venir et je vous tiendrai au courant dès qu'il y aura du nouveau. Dans le futur, la mémoire des jeux vidéo sera-t-elle sauvée par les youtubeurs? Voilà ce que titre Le Monde, et plus particulièrement William Oduro, sur lemonde.fr dans sa rubrique Pixel, puisque dans une conférence à l'université Sorbonne Nouvelle, l'historien de l'art Karl Terrien alerte sur les menaces qui pèsent sur la conservation vidéo ludique. William Oduro se pose la question, et si, d'ici 200 ans, les vidéastes stars comme Squeezie, PewDiePie ou encore le joueur du grenier constituaient la ressource première des historiens du jeu vidéo. C'est la thèse, en tout cas, nous dit-on, provocatrice, qu'a défendu Karl Terrien, professeur agrégé au département d'histoire de l'art et d'études cinématographiques de l'Université de Montréal, lors d'une conférence mardi 6 février à l'Université Sorbonne Nouvelle de Paris. À long terme, nous dit-on, la conservation des jeux et surtout l'assurance de pouvoir y jouer n'est pas garantie. Les composants centraux d'une cartouche de jeu commence à s'oxyder à partir de 30 à 50 ans. Pour les supports optiques, la durée de vie théorique est de 100 ans, mais l'oxydation peut débuter dès une vingtaine d'années. Les jeux vidéo vont tous mourir. Dans quelques générations, d'énormes problèmes d'accessibilité se poseront, donc prévient Karl Terrien, en citant l'ouvrage Best Before Video Games, Super Session and Obsolescence de James Newman, un bouquin paru en 2012 et qui n'est toujours pas traduit à ce jour. On nous dit que contre l'oxydation des jeux, une autre conservation de la mémoire du jeu vidéo existe. C'est celle que l'on retrouve sur Internet via les émulateurs. C'est pas à vous que je vais apprendre ça, bien sûr. Mais elle présente, elle aussi, un biais. Leurs programmeurs se concentrent sur des consoles stars, généralement américaines et japonaises. Demain, des jeux majeurs sur des plateformes mineures pourraient tout simplement disparaître à jamais, faute de logiciel spécial pour y jouer quand leur version physique ne sera plus exploitable. Même les émulateurs existants, nous expliquons, peuvent être de faux amis. Et donc, lors de cette conférence, on a donné l'exemple du Doom original sur un ordinateur contemporain qui tourne en 60 images par seconde avec des couleurs claires et des textures en haute définition. Et ce qui ne témoigne pas, forcément, c'est le moins qu'on puisse dire, d'une utilisation de l'époque pour un jeu qui était plus lent, sombre et pixelisé. D'une manière générale, observe Karl Terrien, je le cite, le problème est qu'on n'a accès qu'à des données partielles et partiales. Effectivement, William Oduro nous dit que c'est un biais bien souvent observé du côté des collectionneurs, qui se font essentiellement l'écho des machines à succès sorties sur leur territoire. On nous donne l'exemple de la PC Engine qui fut un carton au Japon mais un flop aux États-Unis où elle est mal conservée, mal documentée et fatalement souvent oubliée. En revanche, du côté des auteurs de livres d'histoire du jeu vidéo, le problème relève plutôt de la surfocalisation sur ses grands succès technologiques et financiers. Or, hein, nous dit le conférencier, je cite, « des jeux qui n'ont pas été une avancée technologique ou un succès commercial constituent l'essentiel des expériences des joueurs en bas âge ». C'est ce que nous rappelle donc Carl Terrien. Or, pourquoi l'industrie du jeu vidéo ne serait-elle pas centrée sur les joueurs ? Heureusement, ce travail, nous dit-on, est justement assumé aujourd'hui essentiellement par des vidéastes comme Hungry Video Game Nerds ou Le Joueur du Grenier, qui se sont fait une spécialité de fouiller dans les productions bis. Il nous dit aussi que les youtubeurs sont en train de créer la seule trace de milliers de jeux auxquels les futurs chercheurs auront accès. Je vous mettrai le lien dans la description de l'émission de cette édition, comme d'habitude, pour lire l'intégralité de ce papier fort intéressant. Mais ceci dit, qu'on aime ou qu'on n'aime pas ces youtubeurs, là n'est pas la question, mais de se dire... Si à l'avenir, les chercheurs en termes de jeux vidéo se focaliseront que sur ces vidéos-là, ou effectivement que sur des ouvrages de parfaite qualité, et j'en fais régulièrement la promotion dans cette émission d'ailleurs, mais qui se focalisent sur certains types de jeux et pas d'autres, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais c'est vrai que c'est un débat passionnant. J'attends vos réactions, comme d'habitude, sur le compte Twitter de l'émission, @revuedepressejv, tout collé, sur la page Facebook qui porte le même nom, le superbe Discord, où nous discutons tous joyeusement entre gens de bonne compagnie. Bref, n'hésitez pas à réagir sur ce sujet qui est à la fois vaste et extrêmement intéressant. Kingdom Hearts 3 refait parler de lui, même si la sortie, même si une sortie en 2018 n'est pas assurée. On verra bien à l'E3 ce qui va se passer, mais il a fait son retour en nous présentant une séquence dans le monde de Monstres et Compagnie, qui est personnellement mon Pixar préféré, voyez-vous. Donc une nouvelle bande-annonce a été révélée au Japon lors du D23 Expo Japan 2018 de Disney. Ça s'est déroulé à Tokyo et donc nous avons pu voir une séquence dans l'univers de Monsters et Compagnie. Vous le savez, moi Kingdom Hearts, c'est pas forcément une série que j'affectionne, mais de voir des séquences comme ça, après celle de Toy Story qu'on a vue il y a quelques semaines, eh ben ça fait quelque chose quand même. GameSpot a assisté à cette présentation donc au Japon et apparemment il faut s'attendre quand même à un minimum de 9 mondes différents dans Kingdom Hearts 3. Et Tetsuya Nomura, qui est la tête de la licence, qu'on ne présente plus, a promis, de bien belles surprises dans le dernier monde de ce troisième épisode canonique. Des choses qu'il a ajoutées, qu'il nous réserve, qu'il voulait mettre dans sa série depuis le premier épisode. Nous avons également appris que le fameux vaisseau Gumi, bon, qui était des faces pas toujours très rigolotes, enfin ça c'est un avis personnel, sera donc de retour dans ce troisième épisode pour de l'exploration ouverte, attention, et aussi pour du combat. Je sais que vous êtes nombreux à frétiller comme des petites truites à attendre que le jeu arrive, et moi-même qui n'avais pas trop aimé le premier, qui avait plus ou moins aimé le 2, mais voilà, qui attend quand même ce troisième épisode, vu qu'il a l'air tellement riche, tellement généreux et tellement beau surtout. J'espère qu'on en apprendra bientôt, très très bientôt, sur ce troisième épisode de Kingdom Hearts 3, qu'on apprendra la date de sortie, encore plus de détails. Mais bon voilà, comme d'habitude, comptez sur moi pour vous mettre au jus dès que ça tombe. Petite nouveauté ce matin, c'est une tribune d'un tipeur. Alors un tipeur, pour ceux qui ne savent pas ce que ça veut dire, c'est un contributeur de l'émission qui participe donc au Tipeee à la cagnotte pour m'aider à améliorer cette émission au jour le jour. Un tipeur donc qui tenait à s'exprimer sur l'absence de Capcom à l'Evo, cette célèbre compétition d'e-sport focalisée sur le jeu de baston. J'en ai parlé la semaine dernière, on a parlé de l'Evo au Japon et du futur Evo qui va se dérouler aux États-Unis. Et Vanifraise, un tipeur, m'a proposé une petite tribune. J'en profite que s'il y a des tipeurs parmi vous qui ont envie de revenir sur une news que j'ai pu balancer les jours précédents ou les semaines précédentes et qui veulent apporter un éclairage personnel qui semble pertinent, précédent. N'hésitez pas à m'envoyer votre fichier audio à l'adresse mail de l'émission ou sur le Discord ou en MP sur Twitter, comme vous voulez. Je me garde le droit, bien sûr, de refuser ou d'accepter cet extrait, donc ne vous vexez pas si je vous dis que finalement c'est pas assez pertinent pour l'émission. Vous le savez, je ne suis qu'amour et je ne veux vexer personne, hein, bien sûr. Donc n'hésitez pas à me proposer ça ou également de traiter une info qui vous paraît très importante et qui ne serait pas passée dans l'émission. N'hésitez pas à m'en faire part. Donc on va laisser parler ce cher Vanifraise et puis je reviendrai après avec une petite news qui complète ce que nous dit ce cher tipeur. Allez, c'est parti.
Bonjour à toutes et à tous, moi c'est Yvan et je voulais revenir un instant sur une info de la revue de presse JV. L'Evo, oui l'Evo ou encore l'Evolution Championship Series, ce grandiloquent événement américain dédié au tournoi de jeux de combat en 2D ou en 3D pendant lequel le plus grand des champions doit, comme n'importe quel autre joueur, passer par des poules de qualification. Cet événement qui voit des milliers de personnes s'inscrire sur différents jeux compétitifs et qui est depuis maintenant quelques années massivement suivi dans le monde via Twitch et autres replays sur YouTube. Bruno nous rapportait il y a quelques jours la liste des jeux présents lors du prochain Evo, à savoir le futur BlazBlue Cross Tag Battle de Arc System Works, qui n'est pas encore sorti mais qui remplacerait BlazBlue Central Fiction, Guilty Gear Xrd Rev 2, la dernière version du jeu de Arc System Works, Dragon Ball FighterZ, toujours du studio japonais Arc System Works, décidément, Smash Bros. Wii U de Nintendo, mais également Smash Bros. Melee sur Wii, ça c'est pour les irréductibles qui sont jamais passés à l'autre version, Tekken 7 de Namco Bandai, Injustice 2 de NetherRealm Studio, le Mortal Kombat avec Superman, Batman et toute la bande, et enfin le supposé main event de l'Evo, celui qui clôt régulièrement la marche, Street Fighter. Bon alors du coup là ça sera Street Fighter 5 Arcade Edition, la dernière version du jeu, à savoir donc la troisième saison du jeu. Alors pourquoi est-ce que je vous parle de ça aujourd'hui, me direz-vous? Alors déjà, première remarque, l'Evo n'a plus qu'un seul représentant des jeux de combat en 3D. C'est un peu un signe des temps, puisqu'il n'y a pas eu de jeu de 3D à succès depuis des années, hormis le fameux Tekken 7. Deuxième remarque, le nombre de tournois officiels s'amenuise d'année en année. On peut aisément comprendre les raisons techniques et pécuniaires qui poussent les organisateurs à limiter le nombre de jeux, et donc de streams, et donc d'espaces de pub, d'autant que des tournois non officiels ont toujours eu lieu en marge des Evo. Troisième remarque, il n'y a pas de tournoi sur The King of Fighters 14, qui prend donc la porte après un tournoi 2017 pourtant fort en émotion et en audimat. Nul doute que l'éditeur SNK organisera un petit tournoi en marge, comme ils savent très bien le faire depuis des années. Mais surtout, c'est là où je voulais en venir, la licence Marvel vs Capcom disparaît, tout simplement. Marvel vs Capcom Infinite est pourtant disponible depuis septembre dernier, et non, le jeu ne sera pas présent dans un événement qui a pourtant toujours poussé les jeux Marvel vs Capcom. Il faut savoir que cette série, qui permet à Captain America de mettre des coups de bouclier à Megaman, est vraiment pensée pour les Américains, et que c'est une licence qui est hyper populaire outre-Atlantique. Et là, on peut dire que le désaveu est total et assez formel. Ça n'a l'air de rien dit comme ça, mais les organisateurs de l'Evo viennent de mettre un saut gros pied balayette à Capcom et leur politique actuelle en matière de jeux de combat. Tout ça au profit du petit pousset devenu grand qu'est Arc System Works, plus fringant que jamais, avec trois jeux représentés, dont surtout le splendide Dragon Ball FighterZ, ou Dragon Ball Fighters, qui met décidément tout le monde d'accord depuis sa sortie. Alors je vous cache pas que je suis un peu triste personnellement. Moi j'adorerais regarder le tournoi de Ultimate Marvel vs Capcom 3 de l'Evo, mais je dois admettre que Marvel vs Capcom Infinite, sa direction artistique douteuse et son gameplay frustrant ont eu raison de l'intérêt que je portais à la licence. Vous vous souvenez peut-être des rires qu'avaient déclenché ces screenshots du visage sans expression de Chun-Li, ou ces animations foirées et anatomiquement impossibles. Bon du coup, entre un Street Fighter V qui a loupé son départ et Samu récemment avec Arcade Edition, et une licence Marvel vs Capcom dont la perte de vitesse fait frémir un escargot, on se demande si les équipes de Capcom redresseront la barre, ou s'ils abandonneront, dans les années qui viennent, un genre dont ils ont été les tauliers pendant des décennies. Autre question, quid du main event? Est-ce que ce sera Street Fighter V ou finalement Dragon Ball FighterZ? Merci.
Merci Vanifraise. Et tu m'as aussi fait suivre une news très importante. Et j'ai l'impression que ça n'a pas fait beaucoup de bruit. C'est un message officiel du PDG de Capcom, Kenzo Tsujimoto, qui nous fait des promesses. Il a réagi donc par rapport à cette absence à l'Evo, par rapport aux sorties un petit peu ratées de Street Fighter V et de Marvel vs Capcom Infinite. des sorties mal gérées, des succès qui n'ont pas été forcément au rendez-vous. Bref, il en a gros sur la patata, hein, le Kenzo Tsujimoto. Et donc dans ce communiqué, il nous dit notamment, je le cite, hein, « Chez Capcom, nous investissons dans l'e-sport avec notre marque Street Fighter à l'extérieur du Japon depuis 10 ans. » Et nous nous sommes maintenant engagés à poser les bases pour faire de cette année l'année 1 de l'e-sport au Japon. En nous appuyant sur notre expérience hein, aux États-Unis et en Europe, nous allons aller de l'avant pour promouvoir l'e-sport avec toute la force de notre organisation. Le président hein, affirme également que, donc je le cite à nouveau, la qualité de nos jeux est une question vitale et avec laquelle toute notre entreprise doit être impliquée. Nous nous efforcerons de créer des jeux qui raviront tous nos clients en priorisant leurs besoins et en administrant rigoureusement un contrôle de qualité le plus rigoureux possible. Ça fait beaucoup de rigoureux, ça fait beaucoup de rigoureusement, mais au moins le message passe. Cette réaction de Capcom, je pense que les mots du président sont forts de sens, très lourd de sens. Je pense que ça a dû souffler dans les bronches en interne et que, en termes de jeux de baston chez Capcom, là prochainement, on devrait avoir, je pense, du gros costaud. Et il fallait vraiment là, il fallait renverser la tendance parce que c'est vrai que ce Marvel vs Capcom Infinite a été un non-événement, a déçu tout le monde. Beaucoup ne sont pas passés à la caisse au niveau des ventes. Alors je n'ai plus le chiffre en tête, mais c'est une quasi-catastrophe. Sachant quand même qu'avec une licence comme ça, faire une catastrophe médiatique et au niveau et commercial à ce point, il faut quand même le faire. Donc je dirais que ça augure du bon, puisqu'arrivé à ce niveau-là, on ne peut que remonter. Et je crois que les mots du président de Capcom en ce sens ne font aucun doute là-dessus. C'est ainsi que se termine cette édition du lundi. J'espère qu'elle vous a plu. On se retrouve, vous le savez, demain matin, un peu avant 7h. Même heure, même chaîne, même flux. N'hésitez pas à me faire part de vos remarques hein, sur les réseaux sociaux. À faire un petit tour sur le Tipeee si vous voulez soutenir l'émission et m'aider à la réaliser dans des conditions meilleures. Et je vous souhaite donc une excellente journée, bon courage, je vous dis à demain, gardez la foi, gardez la force, et vive le jeu vidéo, bien sûr. Allez, bye bye.